archéologie mystique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 20 février 85.
Nous allons continuer d'entrer dans ce grand mystère de cet ultime enseignement de Jésus vis-à-vis du Paraclet. Je reprends chapitre 16, verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Alors, je vous avais dit cette affirmation de Jésus, cette dernière affirmation de Jésus, est très importante pour nous au point de vue théologique. Parce que si Jésus dit « je vous l'enverrai », ceci implique nécessairement que le Verbe de Dieu est principe de l'aspiration de l'Esprit-Saint. Évidemment, c'est un raisonnement théologique. Je suis d'accord. Mais c'est un raisonnement théologique extrêmement fort. Parce que une personne divine ne peut envoyer une autre personne divine que si elle est à l'origine de cette personne. Puisqu'il ne peut pas y avoir à l'intérieur du mystère de la très sainte Trinité un autre ordre que l'ordre de procession. Or, pour envoyer quelqu'un, il faut être avant lui. On ne peut pas envoyer quelqu'un sans être avant lui. Antériorité ou de nature, ou antériorité dans l'unité de procession. Il faut donc que le Verbe de Dieu soit antérieur à l'Esprit-Saint et donc que l'Esprit-Saint procède de lui. Je ne vois pas comment on peut expliquer cette affirmation autrement. Et c'est ce que le père Feuillet, lui-même en tant qu'exégète, en me disant simplement du point de vue exégétique, une exégèse intelligente, pour comprendre cette affirmation « je vous l'enverrai », ceci présuppose nécessairement une antériorité du Verbe par rapport à l'Esprit-Saint. Puisqu'il ne peut pas y avoir d'autorité dans la très sainte Trinité en dehors de l'ordre d'antériorité. C'est impossible. Autrement, il y aurait distinction de nature. Il faut donc l'unité de nature. Il y a l'unité d'être en Dieu. Il y a la simplicité absolue de l'être de Dieu. Et donc, pour pouvoir envoyer une personne, il faut être source de cette personne. Source au niveau de la procession. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « je vous l'enverrai », Jésus nous révèle qu'il est source de l'Esprit-Saint en tant que Verbe de Dieu. Or, le Père est source aussi de l'Esprit-Saint. Ça nous a été dit précédemment et d'une manière très forte. La première fois où il nous est dit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. Il vous donnera. S'il le donne, ça prouve qu'il l'envoie. On ne peut pas le donner autrement qu'en l'envoyant. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui prie le Père. Et c'est le Père qui l'envoie. Donc, il y a le Père qui l'envoie et il y a Jésus qui l'envoie. Il faut donc que tous les deux soient source de l'Esprit Saint. Or, ils ne peuvent pas être source de l'Esprit Saint dans une diversité, puisqu'on est divers dans le mystère de la Très Sainte Trinité que par la procession. Il faut donc que le Père et le Fils soient une source de l'Esprit Saint. Et c'est ce que l'Église exprime par le Filioque. Le Père et le Fils sont sources de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc, je souligne ça parce que je crois que c'est important pour nous d'y réfléchir. Cependant, moi, je vous dis la vérité, mieux vaut pour vous que je m'en aille. Alors, ce qui est aussi très important, c'est de comprendre la condition sine qua non que Jésus met pour nous envoyer l'Esprit Saint. Mieux vaut pour vous que je m'en aille, moi, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Comme si la présence de Jésus au milieu de nous empêchait que le paraclet nous soit donné. Vous comprenez bien que la présence de Jésus au milieu de nous n'empêche absolument pas que le paraclet nous soit donné. Donc, qu'est-ce que veut dire Jésus ? Il veut nous montrer que ce n'est qu'à travers la croix et par le mystère de la croix, puisque c'est par là qu'il nous quitte. Il nous quitte en s'offrant lui-même à la croix. Donc, il nous quitte en s'offrant lui-même à la croix. Et c'est dans cette offrande qu'il devient pour nous celui qui nous envoie le paraclet. On essaiera de comprendre mieux. Mais je crois que c'est important de souligner ici cette condition sine qua non. Mieux vaut pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Il faut qu'il soit auprès du Père, dans son humanité sainte, pour devenir pour nous celui qui nous envoie le paraclet. Alors, ça, c'est quand même quelque chose de très particulier qu'on essaiera de comprendre. Je le souligne simplement ici parce que c'est un lieu quand même très important où Jésus montre bien, c'est par rapport à son humanité, vous comprenez bien, parce que le Verbe demeure toujours dans le sein du Père. Si le Verbe demeure toujours dans le sein du Père, le Verbe ne nous quitte pas, c'est le Verbe dans son humanité qui nous quitte. Et donc, quand Jésus dit « je vous l'enverrai », c'est bien le Verbe de Dieu. Mais c'est aussi le Verbe ayant assumé la nature humaine. Et donc la nature humaine nous envoie le paraclet. La nature humaine du Christ. Et la nature humaine du Christ, c'est le mystère du sacerdoce du Christ. Et c'est Jésus en tant que prêtre qui nous envoie le paraclet, qui nous le donne. Et c'est là où ça devient plus complexe au point de vue théologique. Mais il faut le poser, le problème, parce que c'est tel de cette manière-là qu'il nous est présenté. Vous n'avez qu'à réfléchir sur cette affirmation de Jésus. « Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos du péché. » Alors ça, c'est la grande action du paraclet. Donc toute la théologie du paraclet par rapport à nous nous est donnée dans cette triple affirmation. Et ça vient au terme, vous voyez. C'est... Avant, il nous est montré tous certains aspects de l'action du paraclet. Lorsque viendra le paraclet que moi, je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui témoignera à mon sujet. Et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc l'action du paraclet, c'est de témoigner. Grâce au paraclet, nous sommes forts. C'est la force que nous donne le paraclet. Précédemment, on voit bien l'action du paraclet, mais le paraclet, l'Esprit Saint, qu'enverra le Père en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Cette espèce de mémoire du paraclet qui nous fait vivre tout ce que Jésus a dit. Et tout ce que Jésus a dit devient actuel par le paraclet. Et il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni le connaît. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure chez vous et qu'il sera en vous. Ça, c'est la présence du paraclet que le monde ne peut pas recevoir, tandis que nous pouvons recevoir cette présence. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Alors vous voyez bien toutes ces diverses activités, toutes ces diverses fonctions du paraclet prennent leur point culminant dans cette affirmation ici. Et une fois venu, le paraclet confondra le monde à propos de péché et de justice et de jugement. Donc un passage très difficile en raison même de sa densité. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le paraclet fait comprendre que seul Jésus enlève le péché. Et c'est pour ça que le paraclet confondra le monde à propos du péché. Il montre que le monde demeure dans le péché parce qu'il ne croit pas dans le Christ. Si nous ne croyons pas dans le Christ, nous demeurons dans notre péché. C'est la foi qui justifie. C'est la foi qui purifie. C'est bien cela qui nous est montré ici. Le premier rôle de l'Esprit Saint en nous, c'est de nous faire comprendre comment la foi justifie et comment la foi est capable, justement, de nous mettre au-delà du péché. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père. Le paraclet confond le monde à propos de la justice. Le paraclet montre qu'il n'y a pas de justice en dehors du Christ. Le paraclet nous fait comprendre que lorsque le démon plaide la justice, c'est une fausse justice. Comme il y a des fausses paix, il y a des fausses justices. Le démon plaide la justice contre la miséricorde. Et quand le démon plaide la justice contre la miséricorde, il plaide une fausse justice. Et c'est pour ça qu'il nous a montré ici la vraie justice que donne le paraclet, c'est cette justice qui nous relie au Père. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. La vraie justice, c'est celle qui vient du Père. Jésus, c'est une justice qui est enveloppée d'amour et de miséricorde. Il n'y a plus d'opposition entre justice et miséricorde. La justice et la miséricorde se sont embrassées. Une des phrases que le Saint-Père aime beaucoup à répéter dans ses encycliques, parce que ça nous fait bien saisir ce qu'est le mystère du Christ. Le mystère du Christ, c'est d'envelopper la justice de la miséricorde. Et c'est de faire comprendre que nous devons toujours dépasser la justice. Évidemment, ici, il ne s'agit pas du tout d'une justice sociale. Il s'agit de la justice au sens le plus profond, c'est-à-dire de cet ordre que la Providence établit en toute chose à partir de la sagesse divine. Il y a un ordre de sagesse, et la conformité à cet ordre de sagesse, c'est la justice divine. Et c'est pour ça que cette justice divine implique la miséricorde. Puisque l'ordre de la sagesse de Dieu est un ordre d'amour. Si c'est un ordre d'amour, c'est donc nécessairement un ordre qui ne peut pas s'abstraire de la miséricorde. De jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Alors, jugement dans le sens de discernement, c'est ça le propre du jugement. Vous savez bien, en grec, le jugement c'est krinein et c'est discerner. Discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Eh bien, le paraclet nous donne, ou plus exactement, il permet au monde, il confond le monde à propos du jugement, parce que le monde confond ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Et le propre du paraclet, c'est de nous donner ce discernement. Voilà, ça, ça vient de Dieu, ça, ça vient du démon. Faire attention, il ne faut pas le dire trop vite. Il ne faut pas le dire trop vite, il ne faut pas voir le démon partout. Et il ne faut pas non plus dire qu'il est nulle part. Donc il y a un équilibre de sagesse divine qu'il faut bien comprendre et que le paraclet nous donne. C'est le propre du paraclet de nous donner ce discernement. Parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Vous voyez, dans la lumière de la croix, c'est dans la lumière de la croix qu'on peut seul faire le discernement entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors, ce qui n'est pas de Dieu est du démon. Il n'y a pas de zone intermédiaire dans la lumière de la croix. Impossible. Et donc, ce qui n'est pas du Christ est nécessairement du démon. Et alors, on nous souligne, hein, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. C'est à la croix où le chef de ce monde est jeté bas. C'est à la croix où le démon est obligé de dévoiler tout son rôle caché. C'est un dévoilement, le mystère de la croix, qui nous révèle ce qui vient du démon et par le fait même ce qui vient de Dieu. Parce que le chef de ce monde est désormais jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Alors c'est ça, c'est la soif du cœur de Jésus, ce désir du cœur de Jésus de communiquer tout ce qu'il porte en lui. Et de voir qu'il ne peut pas le communiquer autant qu'il le voudrait. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Là, c'est toute la condescendance de Jésus, c'est toute la miséricorde de Jésus. C'est pour ça que l'Esprit Saint est celui qui nous est donné pour nous conduire à la vérité tout entière. Parce que Jésus ne peut pas tout nous donner. Nous sommes trop fragiles, nous sommes trop faibles. Et c'est pour ça qu'il laisse l'Esprit Saint achever son œuvre. Voyez, ça fait partie de ces effacements divins. Le Père s'efface devant le Fils et le Fils s'efface devant l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint achève ce que le Fils a commencé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand il viendra celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale, vers la vérité plénière. Donc le propre de l'Esprit Saint, c'est de nous guider vers la vérité première. Il nous conduit à la vérité en sa plénitude. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend. Et il vous annoncera ce qui doit venir. Celui-là me glorifiera, car c'est de ce qui est à moi qu'il prendra, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est de ce qui est à moi qu'il vous prendra, qu'il doit prendre, et il vous l'annoncera. Alors ça, c'est très mystérieux aussi, et c'est très beau, cette annonce que Jésus montre du rôle de l'Esprit Saint. Donc, premièrement, le propre de l'Esprit Saint, du second paraclet, c'est de nous conduire à la vérité tout entière. C'est lui, ce n'est pas la parole de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez, ça c'est la grande révélation du mystère de la tradition. Ramener tout à l'Écriture, c'est méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et par le fait même, on ne comprend plus l'Écriture, puisque de fait, on l'empêche d'être pleinement ce qu'elle doit être. L'Écriture ne peut être comprise que par le dépassement de l'Écriture, qui est le mystère de la tradition. Et ça, c'est évident, très important pour nous à comprendre. On ne peut pas se contenter de l'Écriture. Vous scrutez l'Écriture et vous croyez y trouver la vérité. C'est exactement la même chose. Il faut dépasser l'Écriture pour trouver la source de la vérité, le Christ. Et ce dépassement d'Écriture se fait grâce à la tradition, sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. Quand il viendra celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale. Car il ne parlera pas de lui-même. Alors ça, il faut essayer de comprendre au point de vue théologique. Car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit Saint est un envoyé. Un envoyé ne parle jamais de lui-même et par lui-même, parce qu'il est envoyé, tout simplement. Et donc il dit ce qu'il a entendu de la source. Mais il dira ce qu'il entend, et il vous annoncera ce qui doit venir. Alors, le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous dire ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il entend, l'Esprit Saint ? Il entend la procession dont il dépend. Procession qui provient du Verbe et du Père. Mais il dira ce qu'il entend et vous annoncera ce qui doit venir. Donc l'Esprit Saint à la fois est celui qui nous révèle la plus grande intimité qui existe en Dieu. Et la plus grande intimité qui existe en Dieu, c'est que le Père et le Fils ne sont qu'un dans l'aspiration de l'Esprit Saint. C'est le secret des secrets, ça. C'est vraiment la perle. car c'est de ce qui est à moi qu'il prendra, il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est de ce qui est à moi qu'il doit prendre, il vous l'annoncera. Prendre ce qui est au Fils, c'est prendre ce qui est au Père, puisque tout ce que le Fils a provient du Père. Et c'est cela que Jésus souligne, voyez. Ceci ne pourrait pas se comprendre si on ne voit pas que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça me semble impossible à comprendre. Si on ne voit pas que, que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils dans une unité, comme dans une source. Un peu de temps. Et vous ne m'apercevez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il y a un peu d'énervement, ça se sent. Encore une fois, une de ces paroles énigmatiques, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Un peu de temps et vous ne m'apercevrez plus. Puis encore un peu et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, qu'est-ce que ce peu dont il parle ? Nous ne savons ce qu'il veut dire. Jésus connut qu'ils allaient l'interroger. Il leur dit, vous, vous questionnez entre vous sur ce que j'ai dit. Un peu de temps et vous m'apercevrez, et vous ne m'apercevrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez, vous, attristés, et votre tristesse se changera en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné un jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, maintenant, vous avez de la tristesse, mais de nouveau, je vous verrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Voyez comment Jésus répond à cette question qu'il présuppose. Il sait habiter le cœur de ceux qui sont là. Jésus prend avec beaucoup de force les paroles qu'il vient de dire. Jésus montre que la séparation est imminente. C'est la première chose. En vérité, je vous dis que vous pleurerez, que vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Le monde se réjouit de l'absence de Jésus. Et les apôtres sont affligés. Vous serez, vous, attristés, mais votre tristesse se changera en joie. La séparation du Christ, si elle est acceptée, elle va se changer en joie, sous le souffle de l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint. Puisque le fruit premier de l'Esprit Saint, le fruit de l'amour, c'est la joie. Et alors Jésus prend cet exemple qu'il aime. Ça, c'est les exemples extrêmement réalistes de Jésus. qui sont des exemples d'ordre biologique. Vous savez bien, constamment, hein, l'Écriture prend les... Jésus prend dans son enseignement des exemples biologiques. C'est pour ça que certains disent, si on devrait les traduire aujourd'hui, on devrait reprendre tout l'Évangile en changeant ces exemples, en les mettant des exemples d'ordre tout simplement mécanique. Ça a été dit, ça, ça a été dit. Je ne l'invente pas, je ne l'aurais pas inventé moi, parce que je ne vois pas très bien ce que ça peut faire. Mais c'est de la question d'analogie. Et c'est ça qui est intéressant. Jésus enseigne en prenant des exemples, dans un langage symbolique. Et il y a une analogie par le fait même. Son enseignement implique une analogie, donc implique une théologie, où il met lui-même des comparaisons et un ordre. Et alors, les exemples qu'il prend, la femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Joie et tristesse, hein, c'est bien ça. C'est le passage de la tristesse à la joie, et c'est le dépassement de la tristesse par une joie, par une présence. La tristesse provient d'un danger, provient d'un manque d'espérance, d'un repliement sur soi. C'est pour ça que Jésus souligne « La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Et quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, maintenant, vous avez de la tristesse, à cause du départ imminent de Jésus. Mais de nouveau, je vous verrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enverra. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Alors pourquoi ces analogies, hein ? Et pourquoi des analogies d'ordre mécanique ne pourraient pas expliquer la même chose ? Il y a le grain de blé tombé en terre, il y a la femme qui enfante. Mais constamment, du reste, ce serait très intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, mais de relever toutes les analogies d'ordre biologique dont se sert Jésus. Le pain, l'aliment. C'est une analogie biologique, ça. Alors, essayez de voir si on peut les transposer dans l'ordre mécanique. Et pourquoi ? Parce que ce sont des questions qu'on vous posera. Hein. C'est des questions qui reviennent tout le temps, ça. Et qui reviennent quelquefois d'assez haut. Pas seulement de la base. Alors, pourquoi on peut se servir d'analogies biologiques et qu'on ne peut pas se servir du point de vue mécanique ? J'espère que vous voyez bien. Les analogies biologiques implique la nature, implique une réalité substantielle. Et donc, par là, il y a toujours une analogie possible avec le mystère divin. Parce que ça touche l'être. Ça touche une sagesse. Tandis qu'au contraire, les analogies qui viendraient du point de vue technique, ce sont des formes artificielles. C'est finalisé par l'efficience. Ce n'est plus finalisé par l'amour, par la communication de la vie. C'est l'efficacité face à la fécondité. Il faut être très attentif à ça. Pas d'analogie au niveau de l'efficacité. Pourquoi ? Et une analogie au niveau de la vie. Alors ici, il faudrait reprendre ce que saint Thomas dit dans le Contra Gentiles, au début de son traité sur la très sainte Trinité, où il fait la comparaison entre les actions immanentes, vitales, et les actions transitives. Les actions immanentes, vitales, font que je puis distinguer différents degrés de vie. Mais il y a une analogie entre ces différents degrés de vie. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'efficacité et le point de vue du facere regardent une œuvre particulière réalisée sans l'immanence. Et alors on est tout de suite dans l'équivoque. Et donc, on ne peut pas se servir de ces comparaisons. Il y a équivocité. Mais Dieu, comprenez bien, Dieu ne réalise pas un monde de cette manière. Il est un Père. Et c'est peut-être ce qu'il faut justement comprendre, que les analogies vital impliquant l'immanence peuvent s'appliquer à Dieu et au mystère de la vie divine. C'est le mystère de la vie divine. Alors c'est le mystère de la vie. Et on retrouve des constantes dans la vie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et ici, cette analogie de la tristesse et de la joie. Ce passage de la tristesse à la joie. Ce passage de l'absence de ce qui crée l'angoisse à la joie de la présence. Un peu de temps. Et vous m'apercevrez, et vous ne m'apercevrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Donc Jésus là souligne la séparation imminente, puis de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est ce de nouveau ? Est-ce que c'est le retour du Christ ou est-ce que c'est tout simplement la résurrection ? Je crois qu'il y a les deux. Il y a bien le retour du Christ, c'est bien évident. Tant qu'on est sur la terre, il y a des quantités de sujets de tristesse parce que le Christ ne possède pas tout notre cœur. Si le Christ possédait tout notre cœur, il n'y aurait plus de tristesse. C'est bien évident. Il y aurait encore des souffrances, il y aurait encore des luttes, il n'y aurait plus de tristesse. Si le Christ possédait complètement notre cœur, il possédera complètement notre cœur dans le retour au milieu de nous. Mais tant qu'il n'est pas de nouveau avec nous, il ne possède pas pleinement notre cœur. Et donc il y a toujours possibilité de certaines tristesses. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit en plénitude. Alors c'est tout le grand mystère de la prière chrétienne. Et c'est Jésus qui ici nous fait comprendre ce qu'est la prière chrétienne, ce caractère particulier de la prière chrétienne, quelque chose de nouveau. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demander dans le nom du Christ ? Demander dans le nom du Christ, c'est nous appuyer entièrement sur ce lien d'amour qui existe entre notre cœur et le cœur de Jésus. C'est nous présenter au Père porté par Jésus. C'est nous présenter au Père engendré à la vie divine par Jésus. Alors ça, c'est demander au Père de la part de Jésus, dans le nom du Christ. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre demander en mon nom et in persona Christi ? Dans le sacrement de l'Eucharistie, nous disons que le prêtre agit in persona Christi. Et ici, Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit en plénitude. Alors, quelle différence pouvons-nous faire entre in persona Christi et demander dans le nom du Christ ? C'est important pour nous. Vous voyez, c'est peut-être, hein, je vous mets sur une piste à rechercher, c'est peut-être la différence entre l'ordre de la grâce sanctifiante et ce que représente le point de vue des sacrements. Selon l'ordre de la grâce sanctifiante, nous découvrons le sacerdoce royal des fidèles. Et selon la sacramentalité, nous découvrons le sacerdoce ministériel du prêtre. Je reprends toujours ça, puisque le Concile nous demande d'être attentif à cela. Et le Concile nous demande de comprendre la différence qui existe entre les deux. Or, chaque fois que l'Écriture semble bien donner cette distinction, il faut sauter dessus, hein, pour que cette distinction soit prise pour nous avec toute sa force. La distinction entre le sacerdoce mystique des fidèles et le sacerdoce ministériel qui est le point de vue, qui est le point de vue du sacrement. Or, il me semble bien, je m'approche avec vous, hein, il me semble bien qu'au niveau des sacrements, nous disons in persona Christi pour faire comprendre que nous agissons dans la personne du Christ comme instrument animé, comme ami. Instrument ami. Alors on agit in persona Christi. Tandis que selon le sacerdoce royal des fidèles, on agit non pas ne faisant plus qu'un avec Jésus, mais coopérant avec Jésus. C'est de l'ordre de la coopération. C'est comme Marie à la croix. Marie à la croix, dans le mystère de la compassion, coopère. Elle ne fait pas qu'un avec Jésus. Elle est autre que Jésus et elle coopère avec Jésus. Et je crois que c'est toute la différence entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal des fidèles. Alors, comprenons, quand nous coopérons avec quelqu'un, nous agissons en son nom. Quand nous nous présentons auprès du Père, portant l'iniquité du monde, quand nous approchons du Père en lui disant toutes nos luttes, toutes nos difficultés, quand nous approchons du Père en lui disant nos désirs, Il ne s'agit pas du sacerdoce ministériel. Il s'agit du sacerdoce royal des fidèles. Et ce sacerdoce royal des fidèles, il nous permet d'agir auprès du Père dans le nom du Christ. Puisque c'est lui qui le premier nous introduit auprès du Père. Et c'est lui qui veut nous introduire de plus en plus auprès du Père. Pour que le Père nous regarde du même regard que son Fils. Pour que le Père ait vis-à-vis de nous le même regard que vis-à-vis de son Fils. Et c'est, je crois, la signification. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit en plénitude. La plénitude de la joie provient de la coopération à l'œuvre du Christ, à la mission du Christ, en s'adressant au Père et en vivant pleinement à notre façon, à notre manière, de ce que Jésus lui-même vit. C'est vivre la mission du Christ. C'est la joie plénière de Marie à la croix. Il y a une joie plénière, au-delà de la souffrance. Et ce n'est pas le sacerdoce ministériel qui donne la joie plénière. C'est le sacerdoce royal des fidèles. Je crois que ça, nous pouvons le dire. Si nous avons compris la différence de demander dans le nom du Christ. Et Jésus est le Père, Jésus aime qu'on demande dans son nom. Et le Père aussi aime cela, puisque c'est justement agir dans cette coopération profonde avec Jésus. Je vous ai dit cela en similitude. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en similitude, mais où je vous informerai ouvertement du Père. En similitude, c'est en parabole. C'est d'une manière métaphorique, si vous voulez, en parabole. D'une manière symbolique, mais d'un symbole particulier. Je vous ai dit cela en similitude, elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en similitude, mais où je vous informerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je vous dis, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi, je suis venu d'auprès du Père. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Et Jésus reprend toute l'économie divine. Comment il provient du Père, il retourne vers le Père. Et Jésus nous met dans cette économie divine. En ce jour, vous demanderez en mon nom, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. C'est très étonnant, ça, au point de vue de la médiation. Au point de vue de la médiation, on pourrait croire, si je prends un petit peu matériellement cela, je pourrais croire que la médiation du Christ, à un moment donné, va disparaître. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous, vous m'avez aimé, et que vous voyez, et que vous avez cru que moi, je m'en suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde de façon, de nouveau, je quitte le monde et je m'en vais vers le Père. Bien, je crois qu'il faut bien saisir ce que Sainte Thérèse nous dit. Chaque fois qu'elle a voulu quitter l'humanité sainte du Christ, elle a perdu du temps. Ça, c'est l'expérience d'une sainte. Je ne dis pas qu'il faut expliquer l'Écriture en fonction d'expérience des saints. C'est l'expérience des saints qu'on explique par l'Écriture et non pas l'inverse. Il ne faut jamais l'oublier, ça, parce que c'est aussi source de très grands désordres qui peuvent aller très loin. C'est l'Écriture qui éclaire notre vie. C'est la parole de Jésus qui éclaire notre vie. Et ce n'est pas notre vie qui éclaire l'Écriture, vous comprenez bien. Mais la vie des saints nous aide à mieux saisir certains aspects de l'Écriture. Ça, c'est vrai aussi. De sorte que lorsque Sainte Thérèse dit qu'il ne faut jamais quitter la médiation de Jésus, je crois que ça revient à ce qui est dit très explicitement au chapitre 5, lorsque Jésus le dit avec beaucoup de force, en montrant que nous ne pouvons pas aller vers le Père sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, cette autre affirmation. Alors, comment comprendre ces affirmations ? Avec cette affirmation ici qui semble, à première vue, l'inverse. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Jésus a l'air de s'effacer, puisque s'il jouait le rôle de médiateur, il prierait pour nous. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Et parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, je suis d'auprès de Dieu. Vous voyez comme c'est important, cette petite fin. Où de nouveau nous retrouvons le point de vue de la médiation. Car le Père lui-même vous aime parce que vous, vous m'avez aimé. Donc, c'est parce qu'on aime le Christ que le Père nous aime. Là, on est en pleine médiation. Et Sainte Thérèse est contente. Parce que c'est bien ça, car le Père lui-même vous aime parce que vous, vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, je suis venu d'auprès du Père. Encore la médiation. Donc la foi et l'amour dans l'ordre de la médiation. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et de nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. Donc c'est la médiation affirmée avec une très grande force. Alors comment expliquer dans la lumière de cette médiation cette sorte d'effacement de Jésus. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous. Vous demanderez en mon nom. C'est donc la médiation aussi. Et la médiation, dans ce cas-là, est plus fort. Mais Jésus veut nous faire comprendre que dans cette médiation, le Père nous regarde directement. J'allais dire, la médiation est dans l'ordre de l'efficacité, elle n'est pas dans l'ordre de la finalité. Dans l'ordre de la finalité, on est directement uni au Père, et immédiatement uni au Père. Et le Père nous entend directement dans l'ordre de la finalité du retour. Dans l'ordre au contraire de l'efficience, alors il y a une médiation. Je crois que si je fais cette distinction, alors je peux comprendre parfaitement ce texte. Il n'y a pas d'opposition entre la médiation et le contact immédiat avec Dieu. Parce que dans l'ordre de l'amour, il ne peut pas y avoir de médiateur. Dans l'ordre de l'amour, du retour dans l'ordre de l'amour. Dans l'ordre de la finalité, c'est plus juste de dire dans l'ordre de la finalité. Dans l'ordre de la finalité du retour, il ne peut pas y en avoir. Et c'est tout l'inverse de la hiérarchie néo-platonicienne. Et c'est peut-être cela qui nous ferait comprendre que nous ne pouvons pas employer le néo-platonisme pour expliquer la parole de Dieu. Dans le néo-platonisme, Plotin, dans le néo-platonisme, il y a hiérarchie du côté de l'efficience et du côté de la finalité. Et la hiérarchie du côté de l'efficience et de la finalité sont intimement unies. Et par le fait même, il ne peut pas y avoir un contact direct avec le Père. Et donc la parole que Jésus dit là serait inintelligible. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous, vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis venu d'auprès de Dieu. Donc, on voit bien que dans l'ordre de l'efficacité, de l'efficience, l'humanité sainte de Jésus joue un rôle de médiateur. Pas une seule grâce nous est donnée en dehors du Christ. Pas une seule grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais dans l'ordre de la finalité, le Christ ne fait pas écran. Nous sommes, par le Christ et dans le Christ, des fils bien-aimés du Père. Et parce que nous sommes par le Christ et dans le Christ des fils bien-aimés du Père, nous avons un contact direct avec le Père. Et c'est lui qui finalise toute notre vie. Donc vous voyez, là, je crois qu'il y a un passage très important pour que nous comprenions bien ce qu'est la médiation du Christ. Et que nous n'expliquions pas la médiation du Christ comme la hiérarchie néo-platonicienne. Et que nous essayons de comprendre que la médiation du Christ a ceci de tout à fait unique, c'est qu'il est médiateur dans l'ordre de l'efficience et que dans l'ordre de la finalité, il s'efface. Ses disciples disent « Voilà que maintenant tu parles ouvertement et ne dis aucune similitude. » Aucune symbole, aucun parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit : À présent, vous croyez. Voici qu'elle vient l'heure. Et elle est venue. Où vous serez dispersés, chacun de son côté, et me laisserez seul. Et je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Je vous dis cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez de l'affliction, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde.